Commentaire sur l'épître de Paul aux Romains 1.18 La colère de Dieu contre le péché. V18, la réaction du Dieu très saint face au péché comporte forcément la colère. De même que nous voyons Jésus se mettre en colère devant le péché et la dureté de cœur des hommes dans les évangiles, Marc 3.5, Jean 2.13-17, Matthieu 23.29, Dieu le Père ne peut rester indifférent devant l'iniquité. C'est une perversion de son œuvre en tant que créateur, une violation de sa loi en tant que roi universel, un affront à sa justice en tant que juge, une déloyauté de ses sujets en faveur de son ennemi. Paul dit que la colère de Dieu se révèle, mais de quelle manière se révèle-t-elle? 1. Par les Écritures et la prédication de l'Évangile, y compris la mort du Christ à cause du péché. 2. Par la mort et les souffrances humaines auxquelles l'humanité fut condamnée quand le péché est venu dans le monde. 3. Par la conscience coupable de l'homme. La première des trois réponses me semble la plus évidente, mais les deux autres devraient peut-être s'y ajouter. Paul désigne le péché par les termes impiété et injustice. Plusieurs ont remarqué que le premier se réfère au manquement dans les devoirs envers Dieu, tandis que le deuxième concerne les devoirs envers les hommes. Et dans la discussion qui suit, Paul traite premièrement le fait que les hommes n'ont pas glorifié Dieu comme tel, et ensuite le fait qu'ils se sont plongés dans toutes sortes de péchés en rapport avec leurs semblables. En disant que les hommes retiennent injustement la vérité captive, Paul emploie un mot qui veut dire « empêcher, s'opposer à, résister, supprimer, tenir ». Il me semble que l'on offre Romains à eux, Dieu le leur ayant fait connaître vint en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, 21 puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres 22 se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. 23 Et ils ont échangé la gloire du Dieu incorruptible contre des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. Peut faire cela à deux niveaux. 1. Dans sa propre vie on peut refuser d'obéir à la partie de la vérité que l'on possède. On ne permet pas à la vérité de diriger sa vie. 2. À l'égard des autres, on peut chercher à faire taire, que ce soit par la force ou la pression sociale, celui qui parle selon la vérité ou à persuader les autres à ne pas l'écouter. On fait obstacle à la circulation de la vérité. Vs 19,20, ce n'est pas que la vérité concernant l'existence et la nature de Dieu soit cachée. Dieu s'est révélé aux hommes par les œuvres de sa création. Le problème n'est pas une ignorance involontaire, mais une opposition aux vérités qui sont manifestes ou évidentes. Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil, c'est-à-dire, clairement. Le mot perfection ne se trouve pas dans le grec, qui dit littéralement les « choses » invisibles. Il s'agit des attributs ou qualités de Dieu. De toute manière, Paul en cite deux, sa puissance éternelle et sa divinité. On peut, en effet, découvrir plusieurs vérités concernant Dieu en contemplant sa création. On voit sa puissance dans la grandeur du monde et de l'univers qu'il a créé, son éternité dans le fait qu'il est à l'origine de toutes choses, chaque maison est construite par quelqu'un, Hébreux 3.4, et son intelligence infinie dans la complexité et l'interdépendance de la création, depuis les planètes ou l'environnement marin jusqu'aux êtres microscopiques. On voit son amour de ce qui est beau dans la beauté des paysages, des fleurs, des papillons, et de tous les éléments innombrables de ce monde, et aussi sa nature morale dans la conscience qu'il a mise en chaque être humain. Par contre, il y a des choses que l'on ne pourrait pas savoir de Dieu sans révélation directe, telles que le fait qu'il existe éternellement en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et qu'il désire le salut de l'homme pécheur. Si l'homme ne pouvait rien savoir de Dieu, son idolâtrie et les péchés qui l'accompagnent seraient excusables. Mais ce n'est pas le cas. Vs 21 à 23, à l'origine, les hommes connaissaient bien Dieu. Ils ont choisi, pourtant, ne pas le glorifier, l'honorer, l'adorer, se soumettre à sa volonté, et ne pas lui rendre grâce, à lui qui donne l'air, la nourriture, la vie, et toute la création qui est à la disposition de l'homme, Jean 1.28, 29. 9.1 ou 3, notre prospérité ne vient pas de notre pouvoir mais de la grâce de Dieu. Ces deux fautes ont mis les hommes à la dérive. En effet, l'orgueil aveugle et empêche de raisonner correctement. On s'égare de la réalité et l'on se retrouve dans les ténèbres. Les philosophes grecs et romains, comme les humanistes modernes, étaient fiers de leur sagesse. Impressionnés par leur propre connaissance, les hommes s'enflent d'orgueil, 1 Cor 8.1. Mais devant Dieu leurs connaissances ne sont rien, et l'orgueil qui les empêche de voir leur vraie condition fait qu'ils soient en fin de compte des fous, simples, crédules, qui pensent de manière contraire à la raison, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, Proverbe 1.7. Dans leur folie, les hommes ont échangé le Dieu glorieux et incorruptible, à qui rien ne dit. Romains 1.24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. 25. Eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses, car leurs femmes ont changé l'usage peut enlever la dignité, pour des images des créatures telles que l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, comme le serpent. Pourquoi les hommes auraient-ils introduit l'adoration des images? Une justification est qu'elle sert d'aide à l'adoration de Dieu lui-même. On dit que l'image n'est qu'une représentation de celui qui est au ciel, mais qu'elle permet de se concentrer sur Dieu. En réalité, cette distinction est généralement perdue très vite, et les hommes se mettent à vénérer l'objet même et de le considérer comme Dieu. En plus du fait que l'image finit par détourner l'adoration de Dieu au lieu de la canaliser, c'est déjà déshonorer Dieu que de le représenter d'une manière si grossière. Il est infiniment au-dessus des animaux et des hommes qu'il a créés, le représenter comme tel serait indigne de sa majesté et le rabaisse au lieu de l'exalter. On peut insérer ici qu'en règle générale, quand l'homme cherche à inventer des aides, le résultat en est que ce que Dieu a ordonné est mis de côté et l'invention humaine prend sa place. Une deuxième raison pour cette pratique n'est pas dit ouvertement, mais elle est certes à sa base. C'est l'idée que si l'on ne peut pas voir une chose, c'est qu'elle n'est pas réelle. On veut nier la réalité de ce qu'on ne peut pas voir, toucher, mesurer, entendre, etc. Même parmi les croyants, beaucoup sont matérialistes dans leur mentalité. L'argent, les diplômes, les foules, les bâtiments, etc. retiennent mieux l'attention des gens que la foi, la connaissance elle-même, en contraste avec les diplômes, l'amour, les mobiles purs, etc. L'homme se donne plus facilement à ce qui est visible, mais ce qui est visible est en fait ce qui est moins réel, 2 Corinthiens 4.18. Vs 24.25, trois fois dans ce chapitre, il est dit que Dieu a livré les hommes à quelque chose, l'impureté V24, des passions infâmes, V26, leur sens réprouvé V28. Il les a abandonnés en quelque sorte, leur a permis de poursuivre leur propre voie et surtout d'en subir les conséquences. La conséquence la plus en vue ici, c'est la dégradation morale. Leur fausse religion ne les conduisait pas à maîtriser leur convoitise. Au contraire, elle encourageait tout genre de péché, et les hommes ont déshonoré leur propre corps dans l'immoralité sexuelle. Ces perversions caractérisent le plus souvent les idolâtres, ceux qui ne changent pas la vérité, mais l'échangent contre le mensonge, le vrai pour le faux. Au lieu de se donner à la vérité concernant Dieu, ils embrassent le mensonge des dieux qu'ils ont inventés. Voici une définition très nette de l'idolâtrie, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ce n'est pas logique de faire ainsi. Même si Dieu n'avait pas dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », l'homme devrait adorer Dieu seul, étant donné que lui seul est le Créateur et donc au-dessus de toute autre chose. Ce verset montre clairement qu'il ne faut pas s'incliner en adoration devant une image, la création d'une créature, un arbre, un rocher, un homme, un ange, Marie, les saints, les esprits, etc. Le verset montre aussi que l'adoration de Jésus-Christ est parfaitement normale, puisqu'il est Créateur, Colossiens 1.16. Vs 26.27, Paul parle ensuite des passions infâmes auxquelles Dieu livra les hommes. Infâme est utilisé ici dans le sens de ce qui avilit, ce qui est sale, honteux. Ce qui suit est naturel en celui qui est contre nature. 27. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses honteuses, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rappe une description de l'homosexualité. Au lieu d'admettre que Dieu a fait certaines personnes homosexuelles, la Bible dit que cela est contre nature. La nature montre, par la pratique de la vaste majorité des êtres humains, par l'anatomie des deux sexes, par le processus de la reproduction, même par les animaux en dessous de l'homme, que les relations sexuelles devraient être hétérosexuelles. Et les hommes et les femmes se sont abandonnés à des désirs contre nature. Au lieu de lutter contre ces désirs, ils les ont cultivés, se sont enflammés dans leurs désirs, et ont commis des choses infâmes, des actes homosexuels. De même, dans le monde de nos jours, les sociétés qui s'éloignent de plus en plus de Dieu proclament de plus en plus haut que l'homosexualité est parfaitement acceptable. Quant à l'expression, recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement, nous savons qu'il y a des conséquences physiques, émotionnelles, sociales et psychologiques de l'abandon à l'homosexualité. De nos jours, ce qui se présente inévitablement à l'esprit, c'est le sida, une maladie dont on a peu de chances d'être infecté tant que l'on s'abstienne de l'immoralité sexuelle, et surtout l'homosexualité. Même avant le sida, d'autres maladies vénériennes s'abattaient sur les immoraux et notamment sur les homosexuels. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a jamais d'innocents qui attrapent ces maladies. Dans ces cas, il ne s'agit pas d'un jugement pour le péché, mais des conséquences inévitables de la vie dans un monde où le péché règne et où les actes des autres ont des effets sur nous. Vs 28 à 32, au verset 28, Paul dit encore, « Pour la troisième fois, que Dieu livra les hommes. Il les abandonna à leur sens réprouvé qui les conduisit dans toutes sortes de mal. » Le mot réprouvé signifie « dépravé, perverti, condamné et rejeté comme étant sans valeur ». Les hommes se laissaient diriger par leurs propres pensées que Dieu avait déclarées condamnables. La raison pour cet abandon, c'est que les hommes ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ils ont refusé de reconnaître Dieu. Ils pouvaient le connaître, mais leur ignorance était volontaire et expresse. Ils n'ont pas voulu garder Dieu dans leur connaissance. Ce trait caractérise le monde occidental d'aujourd'hui qui écarte Dieu de toute discussion des affaires publiques. On veut que la religion soit strictement personnelle et que l'existence et la volonté de Dieu ne soient pas mentionnées, ni dans la presse, ni par le gouvernement, ni à l'école. Dans les trois versets qui suivent, Paul cite une vingtaine de crimes et de défauts auxquels les hommes se sont donnés. Tous ces péchés persistent de nos jours et continuent de nous rendre malheureux et de nous condamner devant Dieu. Injustice, iniquité en général, méchanceté, désir de faire du mal aux autres, malice, cupidité, désir d'obtenir ce qui appartient à autrui, amour d'argent, malice, comme la méchanceté, mais l'acte, plus que le désir en vie, gerftenou, mécontentement créé par la prospérité d'autrui, avec une mesure de haine et un désir de déprécier la personne qu'on envie meurtre, gerfonou, prendre la vie humaine, sauf en cas de punition d'un crime, querelle, discussion animée de colère, poussée par la malice et l'envie porteur, 30 médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux ou mal, rebelles à leurs parents. 31 dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. 32 et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ruse, fraude, mensonge, tromperie, malignité, interpréter les paroles ou les actions d'autrui dans un mauvais sens, leur attribuer des mobiles indignes rapporteurs, qui rapportent par indiscrétion ou par malice ce qu'il a vu ou entendu. D'autres traductions mettent chuchoteur, qui excite de mauvais soupçons par des suggestions, sans calomnier ouvertement. Médisant, qui révèle les fautes, les défauts d'autrui avec une intention mauvaise, qui calomnie ceux qui sont absents, mais qui le fait ouvertement. La traduction français courant mais insolent, qui manque du respect, qui traite avec du mépris ceux qui sont non pas absents, mais présents, qui prend plaisir à insulter, impie, qui ressent et montre du mépris pour Dieu, arrogant, ayant une fierté méprisante, hautain, fier, orgueilleux, fanfaron, qui se vante de vertu ou de vice qu'il n'a pas, ingénieux ou mal, qui cherche de nouveaux moyens pour satisfaire aux passions charnelles, etc. Rebelle aux parents, qui ne leur accorde ni le respect, ni l'honneur ni l'attention qui leur sont dus. Qui considère comme un fardeau que de les supporter dans leur vieillesse, dépourvue d'intelligence, morale, irréfléchie, dépourvue de loyauté, perfide, qui ne tient pas à ses promesses, dépourvue d'affection naturelle, qui ne manifeste pas l'amour d'un parent pour son enfant. L'infanticide était très répandu à l'époque parmi les païens, même obligatoire à Sparte, en Grèce. L'avortement d'alors comme d'aujourd'hui montre ce manque d'affection naturelle, aussi, dépourvu de miséricorde, sans pitié, sans compassion pour les faibles, les malheureux. Ce qui augmente la culpabilité des hommes qui ont ainsi provoqué la colère juste de Dieu, c'est que, sachant que Dieu condamne ces choses, considérant ceux qui les commettent comme dignes de la mort, ils les font quand même et ils approuvent et encouragent ces actes et ces pensées chez les autres. Leur rébellion contre Dieu est totale, consciente, et même évangélisatrice. Peut-on s'étonner de la colère de Dieu? Ce qui étonne plutôt, c'est que Dieu n'a pas déjà détruit les hommes une fois pour toutes au lieu de leur offrir le salut.